Loge sanglante, chapitre 5. Quoi qu'en dit son oncle, Gaston n'était pas du tout décidé à aller au bal de l'opéra. Et s'il accepta de se faire conduire au boulevard, c'est qu'il voulait monter au cercle pour consulter son oracle habituel, le sage capitaine qui lui donnait de si bons avis. Il avait beaucoup de choses nouvelles à lui apprendre et une foule de conseils à lui demander. Mais il était écrit que tous ses projets seraient dérangés. Au cercle, il ne trouva personne à qui parler. Le bal y avait fait le vide. Il n'y était guère resté que des joueurs de whist, et l'un d'eux dit à Darcy que Nointel, dérogeant à ses habitudes, avait suivi les jeunes à l'opéra. Sur quoi Darcy, qui tenait à parler à son ami, se décida à l'y rejoindre. Le théâtre était à deux pas. Par hasard, il ne tombait ni pluie ni neige et le pavé était sec. Darcy fit à pied la courte traversée et pénétra dans la salle. Il n'était que minuit et demi. On dansait déjà, mais les loges se garnissaient lentement et on ne rencontrait guère que des femmes costumées qui venaient là pour danser des quadrilles orageux. Les dominos étaient rares. Darcy pensa qu'il trouverait le capitaine dans la loge retenue par le cercle, et il se dirigea vers les premières du côté gauche, sans entrer dans le foyer et sans flâner dans les corridors. Il soupçonnait que Julia viendrait au bal, et il ne se souciait pas de la rencontrer. Non qu'il craignît de se laisser engluer par cette preneuse de cœur, le sien était maintenant à l'épreuve des séductions. Mais il voulait éviter une explication désagréable. Dans la loge, il y avait deux ou trois clubmen de sa connaissance, mais Nointel venait justement d'en sortir. Lolif et Prébord y étaient, et Prébord s'en alla dès qu'il vit entrer Darcy. Ils s'étaient déjà rencontrés au cercle depuis leur altercation, et ils se faisaient froide mine. Mais par une sorte d'accord tacite, ils n'avaient entamé aucune explication à propos de leur rencontre dans la rue Royale. Chacun comprenait que le dialogue tournerait vite à l'aigreur, et ni l'un ni l'autre ne tenaient à s'embarquer dans une querelle. Prébord n'était pas belliqueux, et Darcy, qui se battait volontiers, craignait de compromettre Mademoiselle Lesterel. « Mon cher, lui cria Lolif, venez donc que je vous montre une chose curieuse. » Et comme Darcy objectait qu'il cherchait le capitaine, le reporter, par vocation, lui dit « Vous ne le trouverez pas. Nointel est un original qui ne fait rien comme les autres. Je parierais qu'il est descendu dans la salle et qu'il s'amuse à voir danser les clodoches. Attendez-le ici, c'est plus sûr, et je vous promets que vous ne vous ennuirez pas. Venez à côté de moi sur le devant de la loge pendant qu'il y a encore une place. » D'ici à une demi-heure, nous serons envahis par les femmes que ces messieurs vont amener, et je ne pourrai plus étudier avec vous ce mystère que j'aperçois là-bas. « Il y a un mystère ?» demanda en riant Gaston. « Va pour le mystère, j'ai du temps à perdre, car je me décide à attendre ici le capitaine. Regardez là-bas, dans la loge qui est juste en face de la nôtre, de l'autre côté de la salle. Bon, j'y suis et je vois. » Une femme toute seule. Une femme en domino noir et blanc. Oui, noir d'un côté et blanc de l'autre. Tiens, le masque de dentelle est pareil. Une face noire, une face blanche. Les gants vont avec le reste, un noir et un blanc. Ce costume mi-parti est assez drôle. Mais si c'est là votre mystère, il sera bien vite éclairci. La dame n'est pas venue pour rester en faction dans sa loge, comme un soldat dans sa guérite. Elle ira au foyer ou dans les couloirs, et on saura qui c'est. Nous avons ici des gens qui sont fort au courant du répertoire. Les anciennes sont très connues, les nouvelles sont rares, et quand ils s'en montrent une, elle est vite signalée. Je parie que celle-ci n'est ni une nouvelle ni une ancienne. Je parie que c'est une femme du monde. Peste, quel flair ! À quoi voyez-vous cela, je vous prie ? Elle est seule, donc elle attend quelqu'un. Voilà une belle raison. Il me semble au contraire que si c'était une femme du monde, elle aurait tout intérêt à ne pas se faire remarquer. Elle se tiendrait dans le fond de sa loge et elle n'aurait pas choisi un domino qui attire l'attention. C'est justement là qu'est le mystère. Ah, pour le coup, c'est trop fort. L'olive, mon ami, votre imagination vous égare. Et tenez, voici le général Simancas et le docteur Saint-Galmier qui prennent place dans une loge à côté de celle où est votre inconnu. Allez les trouver. Vous verrez de près le domino bigarré. Vous pourrez même écouter à travers la cloison, dans le cas où cette solitaire recevrait des visites. Non pas, Simancas et Saint-Galmier me sont trop suspects. Bah, cela aussi. Est-ce que vous auriez découvert qu'ils ont commis des crimes? Pas encore, mais je les crois très capables d'en commettre. Ces gens-là ont des allures étranges. Ainsi, ce soir, au lieu de venir dans la loge du cercle, ils en ont loué une pour eux tout seuls. Cela prouve tout au plus qu'ils n'aiment pas les longues histoires. Bon, bon, moquez-vous de moi. Un jour viendra où vous reconnaîtrez que j'avais raison. Ah, voici une visite qui arrive à la femme bicolore. Oui, un domino. Tout noir, celui-là. Qu'y a-t-il à cela d'extraordinaire? Vous n'avez donc pas remarqué que le domino noir et blanc s'est levé vivement dès qu'il a vu entrer l'autre? Si c'était une amie attendue, elle la ferait asseoir à côté d'elle. Et voyez, elles disparaissent toutes les deux dans le petit salon qui est derrière la loge. Et il paraît que cette éclipse intrigue Simancas, car il se lève pour regarder par-dessus la séparation. Il en sera pour son dérangement. Les deux femmes sont devenues complètement invisibles. Bon, mais pourriez-vous me dire à quelle catégorie sociale appartient la visiteuse? Non, ma foi, et vous? Moi, je le sais. C'est une bourgeoise qui ne fréquente pas habituellement le bal de l'opéra. Peut-être même est-ce une provinciale. Ça se voit à sa tenue qui manque absolument d'élégance. Au lieu du voile de dentelle à la mode du jour, elle a sur la figure un simple loup de velours. Il faut arriver de Montmorillon ou de Ménilmontant pour porter un loup. Et au lieu d'avoir mis un capuchon sur une toilette de bal, elle s'est affublée du classique domino d'autrefois, une espèce de peignoir qu'elle a dû louer à une marchande à la toilette. Décidément, mon cher, vous êtes de première force. Vous en remontreriez à Zadig. Zadig? Je ne connais pas d'agent, ni de commissaire de ce nom-là, dit l'olive, qui avait beaucoup moins lu les contes de Voltaire que la Gazette des Tribunaux. C'est un célèbre détective anglais, riposta Darcy avec un flegme superbe. Ah, vraiment? Eh bien, si vous le connaissez, vous me ferez plaisir en me présentant à lui quand il viendra à Paris. Je n'y manquerai pas, et je suis certain que vous l'étonnerez. Ne riez pas, je lui apprendrai peut-être des tours qu'il ignore. Ah, voilà le domino mi-parti qui reparaît, tout seul. La conférence dans le petit salon n'a pas été longue, et je commence à croire que l'autre est tout bonnement sa femme de chambre qui lui apportait un objet oublié. Son éventail, peut-être. Il me semble qu'elle n'en avait pas quand elle est entrée dans la loge, et elle en a un maintenant, sur ses genoux. Quels yeux vous avez! Vous finirez par me dire de quelle couleur sont les siens. Il ne faudrait pas m'en défier. Tiens, une nouvelle visite. Encore une femme en domino. La même, parbleu. Voilà qui dérange un peu vos suppositions. Si c'était une soubrette, sa maîtresse ne se lèverait pas deux fois en moins de 5 minutes pour la recevoir. Et vous voyez qu'elle s'enfonce encore avec elle dans les profondeurs du petit salon. Il n'est pas prouvé que ce soit la même, grommela l'olive, vexée. Et il braqua sur la loge vide une énorme jumelle. Mais l'usage prolongé de ce télescope ne lui fit rien découvrir. Les deux dominos ne reparurent point. À votre place, lui dit ironiquement Darcy, moi, je sortirai et j'irai monter la garde à la porte du réduit mystérieux. Nul ne pourrait y entrer, ni en sortir, sans passer sous votre inspection. C'est ce que je ferai un peu plus tard, répondit l'olive d'un air fin. Pour le moment, j'aime mieux observer Simancas et Saint-Galmier, qui m'ont tout l'air d'espionner leurs voisines. Je vous laisse à cette intéressante préoccupation. Vous partez? Mais il n'est qu'une heure, le bal commence à peine. Je vais me mettre en quête de Nointel. Et vous le ramènerez ici? Peut-être. Piochez le mystère, en attendant que je revienne, si je reviens. Au fond, Darcy n'avait pas la moindre envie de reprendre une conversation qui l'ennuyait. Il n'était venu que pour le capitaine, et il se proposait d'aller se coucher, s'il ne réussissait pas à le découvrir. Il descendit d'abord dans la salle, où il ne vit que des travestis des deux sexes. Puis il parcourut le foyer, où foisonnaient les chercheuses d'aventures et les commis en bonne fortune. Nointel n'y était pas. Et après 3 quarts d'heure de recherche, Darcy allait partir, lorsqu'à l'entrée du corridor des premières, il se trouva tout à coup nez à nez avec son introuvable ami. « Parbleu, c'est heureux !» s'écria-t-il en passant son bras sous le sien. « Voilà je ne sais combien de temps que je cours après toi. Où diable étais-tu donc ?»« Je vais te conter ça. Dis-moi d'abord ce que tu as à me dire. Est-ce que tu viens m'annoncer que tu t'es remis avec Julia ?»«
Tu sais bien que non. » »«
Je ne sais rien du tout. Il y a 4 jours que je ne t'ai vu. Et 4 nuits. 4 fois plus de temps qu'il n'en faut pour faire une sottise. » Sois tranquille, je me soucie maintenant de Julia comme du premier cigare que j'ai fumé au collège. Je dois te prévenir qu'elle est ici. Je ne serais même pas surpris qu'elle y fût venue pour toi, car elle est arrivée seule, dès minuit, ce qui est très contraire à ses habitudes. Je montais le grand escalier derrière elle, et j'ai vu sa figure au moment où elle écartait ses dentelles pour se regarder dans une glace. Elle m'a vue aussi, et elle s'est sauvée. Je crois qu'elle n'était pas contente que je l'eusse reconnue. Elle n'a pas porté longtemps le deuil de ce malheureux Golimine. Mais ça ne me regarde pas, et je vais filer, attendu que je ne tiens pas du tout à la rencontrer. Tu ne la rencontreras pas. Elle est cantonnée dans une loge des premières, de côté, en face de la loge du cercle, où tu es entrée sans doute. J'en sors. Alors tu as dû apercevoir Madame d'Orcival. Elle a pour voisin le général péruvien et le praticien du Canada. Et elle est en domino noir et blanc?
Précisément.
Comment? C'est Julia qui s'est habillée en drapeau prussien. Et cet imbécile de l'Olive qui la prend pour une grande dame et qui invente des romans à propos d'elle. Si tu veux rire, tu n'as qu'à aller le retrouver et à écouter les niaiseries qu'il te débitera. Moi j'en ai assez et je décampe. « Julia n'aurait qu'à venir rôder par ici. J'irai demain te demander un avis. »« Sur ton prochain mariage ?»« Oui, je suis presque décidée à doubler le cap, mais un bon pilote n'est jamais de trop. »« À la disposition des Husted. Je te parle espagnol parce que je viens d'escorter une marquise havanaise. » Et comme Darcy dressait l'oreille, le capitaine reprit en riant. « Oui, mon cher, tel que tu me vois, j'ai couvert de ma protection une noble personne qui la réclamait. Tout à l'heure, en débouchant dans le couloir, j'ai avisé une femme que de jolis gommeux serraient de trop près et qui s'est aussitôt accrochée à mon bras. J'ai pu croire un instant que j'avais fait une conquête, mais je n'ai eu qu'un beau remerciement et la dame m'a quittée à 20 pas de l'endroit où j'avais pris sa défense. Mais à sa voix, à son accent et à ses cheveux ailes de corbeau, j'ai très bien reconnu Madame de Barrancos. L'incomparable marquise au bal de l'opéra, c'est roide. Pourquoi pas, après tout? Elle est un peu bien excentrique, cette créole archimillionnaire. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elle soit venue sans cavalier. Peut-être cherche-t-elle ce fade prébord, les femmes en dégoût si étranges. À la façon dont tu parles d'elle, je vois que ce n'est pas elle que tu comptes épouser. Ni elle, ni Madame Cambry. Je te conterai mon cas demain, mais je me sauve de peur de Julia. Adieu, que l'olive te soit léger. » Le capitaine laissa partir son ami, sans chercher à le retenir. Il savait que Madame d'Orcival n'était pas loin, et il redoutait une rencontre qui aurait pu amener une rechute. Peu s'en fallut, du reste, qu'il ne partît aussi, car le bal ne l'amusait guère. Mais quoiqu'il ne fût pas curieux de scandale, la présence de Madame de Barrancos à cette fête, un peu trop publique pour une marquise, ne laissait pas de l'intriguer très fort. N'aimant pas le monde, il n'allait pas chez elle,
mais il la connaissait parfaitement de vue et de réputation. Il s'occupait d'elle de loin, et elle l'intéressait comme un problème. À vrai dire, tout Paris la connaissait, cette splendide créole qui se montrait partout, et qui partout où elle se montrait régnait sans partage, par la grâce de sa beauté, de sa fortune et de sa naissance. Fille d'un grand d'Espagne et veuve d'un capitaine général, gouverneur de l'île de Cuba, la marquise de Barrancos habitait la France depuis 3 ans et y menait une existence presque royale. Elle semblait même vouloir s'y fixer, car elle avait acquis un superbe hôtel contigu au parc Monceau, un magnifique château et une grande terre en Normandie. Écuyère intrépide, chasseresse infatigable, elle se passionnait aussi bien pour les arts que pour les exercices violents. On la voyait le jour conduire à 4 au bois de Boulogne et le soir s'enivrer de musique au théâtre. Elle recevait beaucoup et elle donnait souvent des fêtes dont la description défrayait pendant 8 jours les chroniqueurs du High Life. Mais elle avait aussi ses intimes, choisies dans toutes les aristocraties, de grands noms et des célébrités artistiques et littéraires. La jeunesse, l'élégance et l'esprit avaient leurs entrées chez elle, comme chez Madame Cambry. Et ces deux veuves se ressemblaient encore en un point. Elle voyait peu de femmes. Mais sans parler de la différence de fortune et d'origine, elles ne se ressemblaient ni par le caractère, ni par les habitudes. Autant Madame de Barrancos était ardente, altière et capricieuse, autant Madame Cambry était calme, modeste et sage. Nointelle, qui s'amusait souvent à les comparer, les avait surnommées le torrent et la rivière. Bien entendu, la marquise était le torrent, mais ce torrent n'avait pas encore causé de ravages. Quoique dégagée de tout lien par sa situation exceptionnelle et par son veuvage, Madame de Barrancos se conduisait très correctement et ses excentricités n'allaient jamais jusqu'aux imprudences compromettantes. Elle vivait d'ailleurs, pour ainsi dire, au grand jour, et il lui eût été plus difficile qu'à tout autre de cacher un écart. Trop Dieu l'observait, les yeux de tous ses adorateurs. Le capitaine n'en revenait pas de l'avoir rencontrée seule, en plein bal de l'opéra, comme une simple irrégulière. Cependant, il n'avait pu se tromper. Il lui était arrivé souvent d'échanger quelques mots avec elle, dans une de ses ventes de charité, où elle aimait à tenir un comptoir. Et elle avait un léger accent qu'on ne pouvait pas oublier. Nointel n'était certes pas homme à abuser du petit secret que le hasard venait de lui livrer. Mais il se plaisait à étudier en philosophe le caractère et les actions des femmes. Il se mit donc à pérégriner par les corridors, dans l'espérance de rencontrer encore la marquise, et cette fois au bras d'un cavalier. Il se flattait, quoique le domino qu'elle portait fût dépourvu de tout signe particulier, de la reconnaître à sa taille, à sa tournure, à sa voix, en la suivant d'un peu près pendant quelques instants. Mais il ne se flattait pas de la reconnaître à distance, d'un côté de la salle à l'autre, si elle s'était réfugiée dans une loge. Et pour cette raison, il jugeait inutile d'aller reprendre sa place parmi ses amis du cercle. Il en fut pour une longue promenade. Il eut beau parcourir le foyer et les couloirs à tous les étages, il ne retrouva point Madame de Barrancos. Et au bout d'une heure, voyant qu'il faisait là une sotte campagne, il songea à battre en retraite. Il se dirigeait vers le grand escalier pour gagner la sortie, lorsqu'il fut violemment heurté par un monsieur qu'il repoussa d'un coup d'épaule et qu'il s'apprêtait à interpeller en termes assez vifs. Il s'aperçut à temps que ce monsieur était l'olife et sa mauvaise humeur se tourna en raillerie. « Où diable courez-vous si fort ?» lui demanda-t-il. « Est-ce qu'on vient d'assassiner quelqu'un ?»« Pas que je sache, » répondit le policier amateur, « mais je suis sur la piste d'une affaire curieuse. » « Golimine serait-il ressuscité? L'auriez-vous reconnu sous le casque à plumet d'un clodoche ?» Ne plaisantez pas, mon cher. Sans sortir de la loge du cercle, j'ai découvert une nouvelle planète. Un certain domino blanc et noir. C'est très curieux, en effet, dit Nointel, de l'air le plus sérieux du monde. Il connaissait la femme cachée sous ce costume, et il se réjouissait de voir ce nigaud de l'Olif se lancer à la poursuite d'un mystère qui n'était qu'une mystification. Ce n'est pas cela qui est curieux, reprit le chasseur de drames. C'est la conduite incompréhensible de ce domino. Il est seul, sur le devant d'une loge des premières de côté, en face de la nôtre. De temps en temps, il en vient un autre, un noir. Le noir et blanc se lève et va causer avec lui derrière le rideau du fond. La conférence dure tantôt 5 minutes, tantôt 1 quart d'heure, tantôt 1 demi-heure. Après quoi, le domino mi-parti reprend sa place sur le devant. Bref, dans cette loge-là, on ne fait qu'entrer et sortir comme les ombres au théâtre de Séraphin. C'est grave, en effet, c'est très grave, dit le capitaine, plus sérieux que jamais. Et vous allez, je suppose, entrer aussi pour trouver le mot de cette énigme? C'est-à-dire que je vais tâcher d'entrer. Il n'est pas certain que j'y réussisse. La dame se garde bien. Mais j'ai un autre moyen. Simancas et Saint-Galmier occupaient tout à l'heure une loge à côté d'elle. Ils viennent de décamper. Je les ai vus de loin remettre leur pardessus. Je n'aurais pas voulu leur demander une place, parce que je ne peux pas les souffrir. Maintenant qu'ils sont partis, je dirai à l'ouvreuse que je suis un de leurs amis. Je m'établirai au poste qu'ils ont déserté, et une fois que j'y serai, je me charge de savoir à quoi m'en tenir sur les manèges de la voisine. Et demain, j'en aurai long à vous raconter. Si je voulais envoyer un article au Figaro et le signer, je vous réponds qu'on parlerait de moi. Mon compliment, cher ami, mon compliment bien sincère. Vous êtes né limier. La perdrix ne peut pas vous échapper. Bonne chance donc et à demain, dit Nointel. Et il s'en alla en ajoutant tout bas. Quel imbécile! La qualification était sévère, mais juste. Et l'Olive pouvait passer pour le type achevé du Parisien gobe-mouche, désœuvré, diseur de rien, affolé de niaiseries, chercheur de problèmes ridicules et de plus, vaniteux comme 4. Il s'adonnait au reportage volontaire, comme il aurait pu collectionner des coquilles ou élever des serins hollandais pour avoir une spécialité. Et il avait fini par se passionner pour le métier qu'il avait choisi, quoiqu'il n'y réussît guère. Sa bibliothèque se composait de romans judiciaires, de mémoires de colère et des mémoires de Vidocq. Il savait par cœur les procédés de ces policiers illustres, mais n'avait pas encore eu la chance de découvrir le moindre meurtrier. Pas seulement un simple voleur, et cette injustice du sort le remplissait de mélancolie. Pourtant, il ne se décourageait pas. Et cette nuit-là, il chassait au mystère avec plus d'ardeur que jamais. Aussitôt qu'il fut débarrassé de Nointel, il se remit en quête, et il arriva bientôt à la remise du gibier. Avant de partir en chasse, il avait compté de sa loge les loges de droite, et après avoir répété cette opération dans le corridor, il parvint sans peine à constater que celle où se tenait l'inconnu en domino bigarré portait le numéro 27. Il voulut tenter un coup de maître, et désignant du doigt ce numéro, il dit à la femme préposée à la garde des loges « Ouvrez-moi, je vous prie. »« Impossible, monsieur, répondit l'ouvreuse, ça m'est défendu. » « Par qui ?»« Par la personne qui a loué le 27 et qui l'occupe. J'ai ordre de ne laisser entrer que des dames. » « Et il en est venu plusieurs, je le sais, dit l'Olif, en faisant mine de chercher son porte-monnaie. « Mais la personne est seule en ce moment. »« Je ne dis pas non, mais j'ai ma consigne, une consigne bien payée. Si j'y manquais, j'y perdrais trop. »« Bah, si je vous donnais 2 louis !»« Vous m'en donneriez 5, que vous n'entreriez pas. »« J'en étais sûre, pensa l'Olif, c'est une grande dame. Il n'y a qu'une princesse qui ait pu payer assez cher » pour rendre incorruptible ce cerbère en jupon. et il reprit. « Alors ouvrez-moi le 29, nous l'avons loué à 3, et mes deux amis qui l'avaient loué avec moi viennent de partir. Je les ai rencontrés dans le couloir, le général Simancas et le docteur Saint-Galmier. Oh, je connais ces messieurs, ils sont abonnés. Et du moment que monsieur a loué avec eux, monsieur peut entrer, dit l'ouvreuse, enchantée de la perspective de gagner une bonne gratification, sans enfreindre les ordres de la dame du 27. » L'olife, aussi enchantée que l'ouvreuse, se glissa dans la loge et vit du premier coup d'œil qu'il n'y avait plus personne sur le devant, dans la loge voisine. Il savait bien que l'oiseau noir et blanc ne s'était pas encore envolé. L'ouvreuse venait de le lui dire. Sans doute ce bel oiseau s'était réfugié dans le fond de sa cage. L'olife, pour s'en assurer, jeta un regard furtif par-dessus la séparation et aperçut, dépassant le rideau du petit salon, un bout de robe blanche. Pour le moment, il n'en demandait pas davantage, et il s'installa de façon à ne pas perdre de vue cette traîne de soie, immaculée comme une aile de colombe. Il se tint debout contre la cloison, affectant de lorgner la salle où les quadrilles faisaient rage, et les premières qui se dégarnissaient déjà, car il était 3 heures. Rien ne vaut une jumelle pour cacher la véritable direction du regard. On peut la braquer sur l'horizon le plus lointain et observer à l'aise ce qui se passe à 2 pas de soi. L'ingénieux l'olife usa de ce stratagème pendant 10 longues minutes. Rien ne bougea dans la loge voisine. La colombe ne roucoulait point et sa blanche vêture pendait inerte sur le tapis. « C'est singulier, se disait le chasseur. » Est-ce qu'elle se serait endormie? Non, je suis stupide. Une femme ne dort pas au bal de l'opéra. Et d'ailleurs, les cuivres de l'orchestre font un vacarme à réveiller une morte. Et pourtant, elle ne remue pas. Je crois que ce serait le moment de manifester ma présence. Il se pencha un peu pour mieux voir, et il toussa légèrement. Rien, murmura-t-il. Pas le plus petit mouvement. Étrange, étrange. C'est à croire, ma parole d'honneur, qu'elle a déguerpi en laissant là son domino. Si je l'appelais, pourquoi pas? Il faudra bien qu'elle donne signe de vie. Si elle sort, je la suivrai dans le corridor. Si elle revient sur le devant, je trouverai une explication à lui donner. Ma foi, tant pis, je me risque. Madame! Pas de réponse. Serait-elle sourde? C'est invraisemblable. Madame! Justement, le quadrille finissait. L'orchestre venait de se taire, et l'olive avait appelé assez haut pour être entendu de la salle. « Rien encore, dit-il, ça devient inquiétant. Elle est peut-être tombée en syncope, et ce serait le cas de faire connaissance avec elle en venant à son secours. Oui, mais cette ouvreuse refusera de m'ouvrir. En avant les grands moyens, j'en serai quitte pour une amende si on dresse procès-verbal de l'escalade. » Poussé par la curiosité enragée qui lui travaillait la cervelle, l'olife monta sur le rebord de la loge, enjamba la cloison et sauta chez sa voisine. On lui lança d'en bas quelques-uns de ces mots que Rabelais appelle des mots de gueule, et ses amis du cercle qui le voyaient de loin exécuter ce tour de force rirent à s'en tenir les côtes. Mais ils s'inquiétaient peu de ceux qui le regardaient. Il remonta vivement jusqu'au fond de la loge, souleva le rideau et vit l'inconnu couché sur les 3 divans qui occupaient un des coins du petit salon, les bras pendant le long de son corps affaissé, la tête penchée sur l'épaule. « J'avais deviné, elle est évanouie !» s'écria l'olif en lui prenant les mains. Elles étaient glacées et il sentit tomber sur les siennes des gouttes d'un liquide tiède. Alors, il s'aperçut que la robe blanche était marbrée de larges taches noirâtres. « Du sang » murmura-t-il. Il courut à la porte et il l'ouvrit en appelant au secours. Un flot de lumière inonda la loge, et du corridor où il s'était jeté tout éperdu, l'olife vit un affreux spectacle. La femme en domino blanc et noir était morte, égorgée. Le poignard qui lui avait troué le cou était resté dans la blessure. « À l'assassin !» hurla l'ouvreuse, accourue la première. Ce cri sinistre attira aussitôt les passants du corridor. En un clin d'œil, la loge fut envahie, et l'olif entouré, saisi, malmené, car on le prenait pour le meurtrier. Il ne chercha point à se défendre, sachant bien qu'il n'aurait pas de peine à se justifier, et il se dit « Enfin je serai donc témoin !» Quelle émouvante déposition je ferai quand l'affaire viendra aux assises. »